Les ailes de porcelaine. Corentin l'avait joué fine. Il le savait, le 29 janvier, le jour de son anniversaire, on ne pouvait pas lui refuser grand-chose, surtout lorsqu'on fêtait son anniversaire chez Mamie. Quand Corentin avait dit à maman et Mamie, après le repas, « Je vais faire un tour dans la chambre vide », elles s'étaient regardées surprises, mais elles étaient coincées. Ce 29 janvier, comment le refuser? D'ordinaire, la chambre vide, Corentin n'avait pas le droit d'y aller, parce que Mamie ne la chauffe pas, qu'elle n'y a pas fait la poussière depuis des lustres, que les rideaux sont gris, les cadres ternes, le buis au crucifix fané, que les moutons y tournent en rond. Parce qu'il n'y a rien à y faire, tout simplement. Ce sont les arguments de maman.
« Tu peux y aller, Corentin !»
finit par dire Mamie. Merci, Mamie. Corentin se demandait bien ce qui faisait si peur à maman dans cette chambre. On ne court pas grand risque dans une chambre vide, à part peut-être de croiser un fantôme, mais il ne faut tout de même pas rêver. La pièce ne contenait qu'un meuble, un seul, un grand coffre. Vous l'avez sûrement compris, ce coffre était la seule chose qui intéressait Corentin dans la chambre. Et même la seule chose qui intéressait Corentin dans la maison de Mamie. Peut-être que le fantôme dormait à l'intérieur du coffre. Peut-être même qu'il y dormait allongé sur un trésor. Peut-être que c'est lui qui effrayait maman. À force de ruse et de patience, Corentin se tenait enfin là, seul dans la chambre vide, devant ce coffre où il aurait presque pu entrer en entier, en se recroquevillant un peu. Bien sûr, Corentin savait qu'il n'avait pas le droit de fouiller dans le coffre. Maman le lui avait formellement interdit. Quant à questionner le coffre, il ne valait même mieux pas essayer. Le coffre devait être au service de Mamie et maman depuis des dizaines d'années. Le genre vieux serviteur de cire aux cheveux gris et aux souliers vernis. Tant pis. Corentin ouvrit en grand le coffre. Le vieux coffre, comme prévu, fut d'une discrétion professionnelle. Même s'il n'avait pas dû être interrogé depuis des années, il ne grinça pas, ne laissa pas échapper le moindre petit son. Un majordome parfait. Mais qui devait connaître la famille de Corentin depuis des générations. Tous ses secrets. Corentin plongea dans le coffre comme dans une piscine, la tête la première, les pieds décollés. L'idée traversa l'esprit de Corentin qu'il pourrait trop se pencher, basculer en avant, qu'alors le coffre se refermerait et que personne n'en saurait jamais rien, sauf le coffre. Mais le coffre était muet. Un deuxième instant, après avoir repris un équilibre plus raisonnable, Corentin pensa qu'il allait peut-être trouver dans le coffre un squelette de petit garçon trop curieux. Et non, il y avait de tout dans le coffre, mais pas de squelette. Pas plus de squelette que de fantômes ou de pièces d'or. Corentin fit un effort de concentration pour transformer ses yeux en caméra afin de pouvoir se repasser le film longtemps. 100 lettres jaunies liées par une ficelle rouge. Un papier cadeau sans cadeau. Un verre fêlé ridant le visage parfait d'une jeune fille en noir et blanc qui pourrait ressembler à maman. Un petit parasol chinois qui sert à décorer les glaces dans les restaurants. Un livre de poésie cornée. Un bouquet de fleurs séchées. Quelques pensées fanées. La première page d'un journal du 20 mai 2003 avec une photo d'avion et un titre « Accident tragique ». Une boîte à musique avec un petit ressort cassé. Une autre photo, mais en couleur, d'une plage au fond et une jeune fille devant qui pourrait ressembler à maman au bras d'un jeune homme qui pourrait ressembler à tout le monde. Une carte postale de Venise, gondolée. Une poupée de cire au regard fondu. Un monsieur et une dame sourient en peluche qu'un velcro rend inséparable. Un épais agenda rouge sang avec imprimé en noir et en gros 1991, et en bas et en petit, mais en noir aussi, le nom de l'agenda, Merlin. Merlin était là. Il attendait, comme le génie dans sa lampe, qu'on vienne le délivrer. » Corentin se fit un devoir de jouer les Aladins.
Corentin remet immédiatement cet agenda dans le coffre.
C'était la voix de maman, une voix drôlement en colère. En colère même, une colère avec un accent circonflexe comme la forme de la bouche de maman. Ridée sévère jusqu'au menton. Corentin aurait obéi, immédiatement, sans discuter, malgré son année de plus, s'il n'avait pas aperçu derrière maman la bouche en V de mamie. Ridée rieuse jusqu'au coin des yeux.
« Corentin, je ne te le répéterai pas !»
Corentin rechercha dans le regard de mamie une porte dérobée pour s'enfuir. Maman s'en aperçut et adressa à sa mère le même regard furieux qu'à son fils. Corentin en profita pour ouvrir la première page de Merlin. En haut à droite, sur une étiquette hexagonale avec un liseré bleu, était écrit Morgane.
« Corentin !»
répéta maman très très en colère pour la dernière fois.
« Qui est Morgane ?»
coupa Corentin, dont l'année de plus n'avait pas ralenti les réflexes de petit garçon curieux. L'effet dépassa ses espérances. Maman se figea.
« Qui est Morgane ?»
insista Corentin. Un voile passa devant les yeux de maman.
« Range ça !»
parvint-elle à dire, mais d'une voix désormais trop faible pour qu'on puisse lui obéir.
« Qui est Morgane ?»
Corentin avait lu beaucoup de contes. Il savait que la règle d'or est de ne jamais renoncer à une réponse quand on a posé une question, et de ne jamais changer la moindre syllabe à la formulation de cette question.
« Qui est Morgane ?»
Regard croisé. Maman Corentin, maman mamie, Corentin mamie. Vote à paupières baissées. Maman fut mise en minorité par deux voix contre une. Elle dut répondre à contre-cœur.
C'est ta tante, Corentin. Morgane est ma sœur. Mais tu ne m'as jamais parlé d'elle? Elle est partie lorsque tu étais tout petit. Tu ne peux pas te souvenir.
Elle est partie? Pour où? Pourquoi?
Sur une petite île du Pacifique, en Polynésie. L'île de Mangareva. Tu pourras regarder sur le planisphère un petit point minuscule au milieu de l'océan. Elle écrit de temps en temps. Enfin, elle écrivait de temps en temps. Plus maintenant.
Morgane écrivait beaucoup, continua mamie. Elle vivait entourée de mots si beaux. Maman lança alors un regard noir à mamie. Elle le lança avec une telle violence que mamie n'eut pas la force de le rattraper. Puis, elle sortit.
« Mamie, pourquoi maman ne m'a-t-elle jamais parlé de Morgane ?»«
Par peur, Corentin. Peur de troubler les eaux calmes de l'étang de ses souvenirs.
Elle aimait bien sa sœur, alors ? Pourtant, elle a l'air très différente de maman.
Le jour et la nuit. Et pourtant, elles étaient inséparables.
Elles sont jumelles ?
Non, Morgane était un peu plus vieille, même si tout le monde la croyait un peu plus jeune.
Pourquoi parles-tu toujours de Morgane au passé ?
C'est vrai. Excuse-moi. Ta maman était très attachée à Morgane. Alors quand Morgane est partie, maman a un peu perdu une moitié d'elle-même, sa meilleure moitié.
Et vous n'avez jamais revu Morgane ?
Jamais. Depuis, maman a préféré la noyer dans l'étang de ses souvenirs. Et toi, Corentin, tu as jeté un gros caillou dans les eaux dormantes. Tu as réveillé la dame du lac.
Je ne savais pas.
Ce n'est pas grave. Les souvenirs sont faits pour être remués, pour être époustés de temps en temps, comme des vieux objets.
Comme ce vieux livre ?
Exactement. Pour Morgane, ce livre était plus précieux qu'un journal intime. Morgane avait ton âge quand elle a commencé à écrire sa première histoire sur cet agenda. Elle n'était encore qu'une petite fille. Quand elle a écrit sur la dernière page la dernière histoire, c'était bien des années plus tard. Elle était alors une vraie femme.
Et elle écrivait encore des histoires ?
Quelques-unes, les dernières.
Si ce recueil était si important pour Morgane, pourquoi elle ne l'a pas emporté avec elle sur l'île de Mangareva ?
Mamie ne répondit que par un sourire qui signifiait que ses mots étaient fatigués de monter et descendre les deux générations qui les séparaient. Corentin comprit, même si ses mots à lui, plus jeune, étaient encore en pleine forme. D'un geste mendiant, il désigna à Mamie l'agenda. Le même sourire indiqua à Corentin que oui, il avait le droit, oui, il pouvait emmener Merlin chez lui.
« Bonne nuit, Corentin, »
fit maman, mi-triste, mi-gênée, mi-résignée.
« Et bon anniversaire. »«
Bonne nuit, »
répondit la tête de Corentin qui sortait des couvertures. Maman éteignit la lampe sans conviction. Elle savait que Corentin la rallumerait dès qu'elle aurait le dos tourné. Elle le lisait dans les yeux de Corentin qu'elle voyait briller dans l'obscurité. Elle ferma la porte et Corentin ouvrit la lumière. Merlin dormait sur la table de nuit.
« Quel fainéant !»
se dit Corentin.
« Il a dormi dans le coffre pendant des années et il continue. »
Corentin ouvrit Merlin. Sur chaque page de l'agenda était racontée une histoire. Une par jour. Une petite histoire quotidienne d'une trentaine de lignes. Parfois un peu plus parce que l'écriture était serrée. Parfois un peu moins à cause d'un dessin. Une étoile, une fleur, une libellule. Morgane avait griffonné la date de ces histoires en haut à droite. La première datait de janvier 1991, la dernière de mai 2003. Les histoires semblaient naître à rythme non régulier. Morgane en inventait parfois plusieurs en quelques jours et restait ensuite plusieurs semaines sans en écrire une seule. Au fil des années, on pouvait voir l'écriture de Morgane changer. Perdre les courbes de l'enfance, se durcir. L'écriture seulement, car plus Morgane grandissait, et plus ses histoires semblaient sortir de sa tête fraîche et claire comme l'eau d'une fontaine. Corentin, en y regardant de plus près, s'aperçut que Merlin ne gardait pas en mémoire 365 histoires, mais 365 plus une. Tous les agendas laissent un peu de place à la fin, quelques pages blanches au bout de l'année, pour faire un bilan des erreurs à ne pas recommencer ou noter les bonnes résolutions. Morgane avait également noirci ses pages vierges de son écriture la plus âgée, celle de mai 2003. La 366e histoire s'appelait « Les ailes de porcelaine ». Elle était beaucoup plus longue que les autres. Corentin aurait bien commencé à lire Merlin par la fin, mais il se retint. D'ailleurs, l'agenda devait certainement être réveillé. Corentin le reposa, fermé, sur la table de nuit. Gagné. Merlin bâilla d'abord, puis parla enfin.
Corentin, ne recommence jamais. Tu devrais savoir que les livres ont horreur qu'on les lit sans leur permission.
Merlin possédait une voix grave et lente.
Surtout un journal intime. Un livre de cuisine, à la rigueur, ou de mathématiques. Ça ne serait pas bien gênant. Ils n'ont rien à cacher. Mais un livre d'histoires inventées. Tu vois, Corentin, c'est un peu comme si on venait lire dans tes pensées. Tu aimerais qu'on lise tes pensées sur les lignes de ton front?
Corentin fut parcouru d'un frisson. Qu'on puisse lire dans ses pensées? Que maman, les copains, les profs, les gens qui passent dans la rue, qu'ils puissent tous entendre ce qu'ils pensaient d'eux au moment où ils le pensaient, sans aucune possibilité de mensonge, sans plus aucun jardin secret. Quel cauchemar!
Même si Corentin souhaitait bien du plaisir aux gens qui voudraient lire dans sa tête, ses pensées devaient être sacrément en bazar, raturées à force de penser tout et son contraire, mélangées au brouillon de son imagination, et tenir en un nombre incalculable de gros volumes à vouloir toujours se souvenir de tout.
« Alors, tu vois, gros malin, » reprit Merlin, « que préfères-tu, lire des histoires ou les écouter ?»«
Les écouter, évidemment. »«
Puisque tu connais le langage des objets, tu n'as qu'à demander. C'est mon travail, raconter des histoires. Je le fais depuis 300 ans. »
Monteur. Tu es né en 1991 ?
En 1990, Corentin. En 1990.
Alors, tu as connu Morgane ?
Si je l'ai connu, répondit Merlin ému. J'ai été son confident pendant 12 ans. J'ai passé des journées entières avec elle, des nuits. Je crois que personne ne l'a connue mieux que moi. Je crois qu'aujourd'hui, les agendas sont les derniers objets vraiment proches des hommes, les seuls à connaître leur vie entière, celle des jeunes filles comme celle des hommes d'affaires.
Elle était comment ?
Morgane, merveilleuse.
Alors, pourquoi t'a-t-elle quitté toi aussi, si tu étais son meilleur ami ? Pourquoi t'a-t-elle laissé enfermer dans ce coffre, si tu étais son confident ?
Peut-être justement parce qu'elle me connaissait trop et que je ne pouvais plus la surprendre. Parce que tout ce que je pouvais lui dire, elle le connaissait déjà, qu'elle m'avait lu et relu 100 fois, et que je n'avais plus une seule page vierge à lui consacrer.
Ce n'est pas une raison pour abandonner quelqu'un. Ce n'est pas une raison pour aller vivre seule à Mangareva. Dis-moi pour de vrai, pourquoi est-elle partie, Morgane ?
Je ne sais pas.
Menteur ! D'ailleurs, je t'ai délivré de ton coffre. J'ai rompu le charme, alors tu dois exaucer un de mes vœux. C'est la loi des comptes.
Tu as raison, Corentin. C'est vrai, c'est la loi. Un vœu... Voyons. Voilà, je sais ce qui va te faire plaisir. Cette année, je te raconterai une histoire tous les soirs. Mes 365 histoires, une par soir, jusqu'à ton anniversaire l'année prochaine. D'accord ?
Corentin hésita. Il avait la sensation de se faire manipuler. Oui, je ne sais pas. Je croyais que le vœu, c'est moi qu'il choisissait. Plutôt que les 365 histoires, j'aurais préféré que tu me racontes pourquoi Morgane est partie.
Désolé, Corentin, la loi des comptes, c'est un vœu, pas deux. Mais si tu le veux, ton vœu prend effet à l'instant même. Tu es prêt pour la première histoire ?
Je suis prêt,
admit Corentin.
Tiens, si tu veux vraiment me faire plaisir, commence par la dernière histoire. Raconte-moi les ailes de porcelaine.
Un léger tremblement fit frissonner les feuilles de Merlin, comme si Corentin était parvenu à lire dans les lignes de ses pages.
Non, Corentin, pas les ailes de porcelaine. Pas aujourd'hui. Ce ne serait pas raisonnable de raconter les ailes de porcelaine un dimanche.
Ah bon ?
Alors Merlin se mit à raconter la première des 365 plus une histoire. Une histoire fantastique. Une histoire qui se déroulait tout au bout de l'univers, au milieu de planètes inconnues, pas seulement rondes, de toutes les formes possibles. L'histoire de quelqu'un tout seul au milieu de la galaxie qui se disait que dans l'immensité de l'univers, parmi la multitude de planètes, il n'était pas possible qu'il n'existe pas quelqu'un d'autre quelque part. Mais par où commencer à chercher ? Merlin racontait magnifiquement les histoires. À partir des 30 lignes griffonnées par Morgane, il projetait un film multicolore en écran géant, en 3 dimensions, avec musique, décor, effets spéciaux et tout et tout. Merlin se vantait d'être le meilleur raconteur d'histoire des années 90. Son séjour dans le coffre n'avait fait que nourrir davantage son imagination. En racontant son histoire à Corentin, Merlin se sentait revivre, à nouveau utile, plus que jamais irrésistible. Aussi, quand la respiration de Corentin se fit plus lourde, plus forte, plus régulière, quand Corentin s'endormit, avant même que Merlin n'ait achevé son histoire, Merlin se sentit terriblement vexé, humilié même. « C'est le manque d'entraînement, » se dit Merlin, le temps de s'éclaircir la voix, de se réhabituer à la lumière, de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Le lit de Corentin était un vaisseau spatial. Une réponse enfin parvint du fond de la voie lactée, une vie, une présence, un long message codé. Le cri synthétique du réveil matin. Corentin se leva chamboulé par le décalage horaire intergalactique. Sa chambre lui semblait si carrée et si étroite. Au dehors, par la fenêtre, le jour n'était pas encore parvenu à chasser les étoiles. Merlin, vexé, dormait ou faisait semblant,
Merlin, tu es vexé ?
Silence.
Tu sais, ce n'est pas ta faute si je me suis endormi avant la fin de l'histoire.
Enfin, si, c'est ta faute,
mais c'est parce que tu racontes trop bien les histoires. Alors je ne peux pas me retenir. Les rêves que tu fais naître sont plus forts que moi. Ils m'entraînent dans leur pays. Il faut que j'imagine moi-même la suite.
Ce n'est pas grave, Corentin, mentit Merlin. Merlin était confiant en sa 50e histoire. Cela faisait 49 soirs qu'il habitait sur cette table de nuit, 49 histoires qu'il racontait, et à chaque fois, Corentin s'était endormi avant la fin. Mais cette fois-ci, Merlin y croyait. Il allait raconter une histoire policière, une histoire de mystère, une histoire dont on ne peut pas ne pas vouloir connaître la fin. Une histoire à suspense, un suspense haletant. Comme la respiration de Corentin qui s'endormit au beau milieu de l'intrigue. Le lit de Corentin était une vieille Cadillac beige. La rafale de mitraillette crépita dans le noir. Corentin roula sur le côté sans savoir s'il était touché ou non. Le cri sifflant du réveil matin. Corentin se réveilla tombé du lit, le crâne rempli de déductions. Il mit pour une fois très peu de temps à découvrir les différents habits qu'il éparpilla aux quatre coins de la chambre chaque soir en se couchant. Sa chambre lui semblait si carrée et si étroite. Au dehors, le brouillard s'était emparé de la ville.
« Tu sais, Merlin, si tu ne veux pas que je m'endorme avant la fin, la prochaine fois, tu n'as qu'à me raconter les ailes de porcelaine. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis certain que cette histoire ne me fera pas dormir avant la fin. »
Non, pas aujourd'hui, répondit Merlin. Ce ne serait pas raisonnable de raconter les ailes de porcelaine en hiver. Afin d'éviter à Corentin de rêver et donc de s'endormir, au 100e jour, pour sa 100e histoire, Merlin choisit de raconter une histoire réaliste, la plus triste possible, une histoire d'enfance malheureuse, de froid, de neige, de maladie, de trahison, de vengeance, de solitude, de prison. Au moment le plus noir, Corentin s'en alla rêver la suite. Le lit de Corentin était une cellule. La sirène retentit, signal de la sortie, de la libération attendue depuis des milliers de jours. Les portes du bagne s'ouvraient. Le cri interminable du réveil matin. Corentin se réveilla les yeux lourds, comme s'il avait dormi 1000 nuits sur un matelas de bois. Sa chambre lui semblait si carrée et si étroite. Au dehors, les arbres, les oiseaux, tout le monde était déjà debout.
« Excuse-moi, Merlin, je fais des efforts, je te jure, mais je ne peux rien contre mes rêves, ils sont trop forts. Sauf peut-être si tu me racontais les ailes de porcelaine. »
« Non, pas aujourd'hui, répondit Merlin. Ce ne serait pas raisonnable de raconter les ailes de porcelaine quand les nuits sont encore plus longues que les jours. »
À la 150e histoire de l'année, Merlin croyait cette fois avoir trouvé l'histoire qui ferait veiller Corentin. Une histoire drôle, de cirque, presque sans parole, rien que des cris, des farces et des rires.
Corentin s'envola dans ses rêves entre deux gags.
Le lit de Corentin était un chapiteau. La fanfare sonna la parade finale, saluée par un tonnerre d'applaudissements.
Le cri joyeux du réveil matin.
Corentin se réveilla debout sur son lit, somnambule, funambule, sur son matelas trampoline, même si sa chambre lui semblait si carrée et si étroite. Au dehors, le ciel était déjà immensément bleu, comme le toit d'un cirque tendu au-dessus de la planète.
Faut pas te vexer, Merlin. Tes histoires, je les adore. Tous les soirs, c'est devenu une drogue pour moi. Mais je sais bien que tu préférerais que je t'écoute jusqu'au bout. Pardonne-moi.
Ce n'est rien, mentit encore Merlin.
Maintenant que les jours sont plus longs que les nuits, tu vas pouvoir me raconter les ailes de porcelaine ?
Non, pas aujourd'hui, Corentin. Ce ne serait pas raisonnable de raconter les ailes de porcelaine juste avant les vacances.
Pour la 200e histoire, Merlin pense à offrir à Corentin tant de rêves dans son histoire qu'il n'aurait pas à aller en rechercher quelques-uns supplémentaires au royaume des songes. Merlin fit jaillir un feu d'artifice d'aventure de ses pages. Il engagea des dizaines de pirates, pour la plupart balafrés, des sabres ensanglantés, des mers en colère, la carte d'un trésor trempé, déchiré, illisible. Et un trésor ne se doutant de rien, et surtout pas du désordre qu'il causait, qui attendait bien tranquille dans le sable, dorant son cuir et son or au soleil d'une île équatoriale. Les corsaires n'avaient pas encore touché la terre ferme, que Corentin naviguait déjà sur l'écume des nuits à la cime des nuages. Le lit de Corentin était un galion. Un fou cria « À l'abordage !» Le cliquetis des lames entrechoquées sur le pont du vaisseau troubla brutalement le silence de l'océan. Le cri sauvage du réveil matin. Corentin se réveilla trempé, les draps en bataille, le polochon à la main, prêt à défendre sa chambre qui lui semblait pourtant si carrée et si étroite. Au dehors, il pleuvait des cordes. « Elles sont géniales tes histoires, Merlin, même sans la fin. »
« Je le sais, tu possèdes suffisamment d'imagination pour les terminer comme tu en as envie. » Reconnaît Merlin. « Après tout, c'est normal, tu es de la famille de Morgane. »
Maintenant que les vacances sont finies, je vais enfin pouvoir connaître les ailes de porcelaine ?»«
Non, pas aujourd'hui, Corentin. Ce ne serait pas raisonnable de te raconter les ailes de porcelaine au moment de la rentrée scolaire. »
Pour la 300e histoire, Merlin joua son va-tout. Il allait raconter l'une des histoires qu'il aimait le moins, une de ces histoires qui sont inventées pour faire peur. Une de ces histoires qu'il est très déconseillé de raconter aux enfants le soir, car cela les empêche de dormir. Tant pis. Merlin décrivit sans remords ce voyageur perdu qui découvrait ce château hanté, que guettaient ses ombres sans corps, que suivaient ses squelettes grimaçants, qu'attendaient ses tunnels sans fond.
Corentin profita du retour de quelques revenants pour s'échapper, même si, cette fois-ci, ce ne fut pas pour le pays des rêves, mais pour celui des cauchemars.
Le lit de Corentin était un train fantôme. Un cri de douleur déchira les murs du château, faisant voler en éclats les fenêtres, s'engouffrer le vent dans les rideaux pour donner vie à autant de spectres glaçant les longs couloirs pavés.
Le cri rassurant du réveil matin.
Corentin se réveilla grelottant dans un lit gelé, le teint aussi pâle que celui de ses draps, épiant inquiet sa chambre, heureusement si carrée et si étroite. Au dehors, la nuit venait juste de partir. Mais le décor du jour n'était pas encore arrivé, seule son ombre brumeuse l'avait précédé.
Oh, ne m'en raconte pas trop souvent des histoires de ce genre, Merlin. Je t'assure que celle-ci, j'aurais préféré connaître la fin avant de m'endormir. Raconte-moi plutôt, je ne sais pas, au hasard, les ailes de porcelaine. La rentrée est passée depuis longtemps.
Non, pas aujourd'hui, Corentin, commença Merlin.
Quand alors ?
Coupa brutalement Corentin, qui connaissait le refrain.
Arrête tes excuses et donne-moi une date précise.
Puisque tu y tiens tant, c'est toi qui l'auras voulu. Je te la raconterai le soir où tu prendras une année de plus, le jour de ton anniversaire, le jour de notre anniversaire de rencontre. Ça tombe bien, je connais 365 plus une histoire et cette année compte 366 jours.
Dès lors, Corentin attendit son anniversaire avec une impatience inédite. Pour la première fois de sa vie, il aurait souhaité vieillir plus vite. Les dernières histoires de Merlin, les derniers rêves de Corentin, avaient un teint pastel un peu trop passe-temps.
Pendant toute cette année, j'ai un peu oublié de vous parler de Morgane.
mais il ne faudrait pas en conclure que Corentin, lui, l'avait oublié. Corentin n'oubliait jamais rien. Corentin agaçait sans cesse Merlin avec ses « Qui est Morgane ? Où est Morgane ? Comment est Morgane ?» Il agaçait Merlin avec Morgane au moins aussi souvent qu'il l'agaçait avec les ailes de porcelaine. C'est dire. À maman, il ne parlait jamais des ailes de porcelaine. Pour compenser, il l'agaçait deux fois plus à propos de Morgane.
Quand as-tu reçu sa dernière carte postale ? Tu me montres la dernière photo que tu as d'elle ? Quelle est la dernière chose qu'elle a dite en partant ?
Et parfois, quand il possédait un peu plus de courage,
« Pourquoi elle est partie ?»
Maman ne répondait jamais. Un jour, il posa à maman une question qui lui demanda plus de courage encore.
« Dis, maman, Morgane, elle a des enfants ?
Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Corentin ?» Tactique classique des adultes quand ils sont coincés. Répondre à une question par une question. Corentin s'empressa de répondre par une réponse.
« Eh bien, sur son île de Mangareva, si Morgane est devenue maman, alors c'est triste, parce qu'elle n'a pas emporté avec elle son recueil d'histoires. C'est stupide, tu ne trouves pas ? Elle a écrit pendant 13 ans des contes fabuleux pour des enfants, pour rien. Si son propre enfant ne peut jamais lire ses histoires, il ne saura jamais qu'il possède une maman si extraordinaire. »
Maman se retourna vers la cuisine, sortant de sa manche un mouchoir. On aurait dit qu'elle allait pleurer. Corentin en aurait même été sûr si cela avait été quelqu'un d'autre que maman. Mais maman ne pleurait jamais, il le savait. Enfin vint le jour anniversaire. Corentin n'accorda qu'un intérêt poli à tous les cadeaux que l'on étalait devant lui. Le seul cadeau qu'il attendait était celui de Merlin, un bibelot aux ailes de porcelaine. Il déchira alors les emballages avec un désintérêt que les adultes invités prirent pour de l'ingratitude. Tous les paquets étaient posés sur une table, avec chacun une petite étiquette et un nom dessus, pour ne pas confondre et bien savoir qui avait donné quoi. Tout à fait naturellement, sur l'une des étiquettes, sur son cadeau le plus beau, maman avait écrit « Maman ». Corentin se fit une réflexion bizarre. C'était la première fois qu'il lisait « Maman », écrit de la main de maman. Cette réflexion bizarre en entraîna une autre, mais indéfinissable. Une pensée galopante qu'il n'arrivait pas à attraper au lasso de son cerveau. Il joua au rodéo avec cette idée sauvage pendant la totalité du repas, puis le restant de l'après-midi, qui ne fut pas long d'ailleurs, puisque l'on sortit de table à 5h30. Quand enfin les invités partirent, il put se retrouver dans sa chambre, seul. Alors, presque immédiatement, il parvint à capturer son idée rebelle. Il sut, il comprit, et il en fut bouleversé. Sa vie, sa petite vie, en un instant, s'effondra sur sa tête, sa pauvre tête bien pleine, mais pas très solide. Tout le monde lui mentait. Il était encerclé par les menteurs et les menteuses. Tout n'était qu'illusion et trahison. Le M, le A, le N de « maman » sur l'étiquette du cadeau était identique au M, au A, au N de « Morgane » sur l'étiquette de Merlin des années plus tôt. Signé avec le même M majuscule, écrit de la même main. Corentin compara en détail les deux étiquettes, côte à côte. Le doute n'était pas possible. Morgane n'existait pas. Morgane n'avait jamais existé. Maman n'avait jamais eu de sœur envolée à Mangareva. Morgane, c'était maman. Tout le monde le savait. Tout le monde lui avait menti depuis le début de cette histoire. Merlin le premier. Corentin réveilla brutalement Merlin.
Ainsi tu as tout compris, demanda calmement l'agenda.
Morgane n'existe pas.
Non.
Alors je n'ai rien compris. Rien du tout. Pourquoi tous ces mensonges?
Oh, maman et mamie ne t'ont pas vraiment menti, lorsqu'elles t'ont raconté que Morgane était la sœur de maman. C'est la vérité, en quelque sorte. Morgane, c'est une petite fille que ta maman avait inventée. Une autre, elle, a un nom d'artiste pour signer les histoires qu'elle inventait.
Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Ce n'est pas honteux d'écrire des histoires.
Pour une grande personne, peut-être que si. Ce sont des histoires très anciennes, qui remuent de vieux souvenirs. Je crois que ce n'est pas Morgane qui est partie. C'est maman qui l'a abandonnée, comme moi, dans ce coffre, il y a longtemps.
Pourquoi ?
Silence.
Pourquoi est-ce que maintenant, maman n'écrit plus d'histoire ?
Silence.
Pourquoi est-ce que maintenant, maman est si différente de Morgane ?
Silence.
Pourquoi est-ce que maman est si triste et Morgane si gaie ?
Silence.
Est-ce que cela a un rapport avec les ailes de porcelaine ?
Silence.
Ça ne vous dérange pas, tous, toi le premier, de comploter autour de moi ?
Silence.
Aujourd'hui, j'ai appris que maman savait mentir. J'ai encore du mal à le croire. Il a fallu que je prenne un an de plus pour m'en rendre compte. C'est cela, devenir adulte ? Bientôt, moi aussi, je vais apprendre à mentir ?
Parce que tu ne mens jamais, peut-être, Corentin. Corentin laissa passer un silence, puis répondit.
Mais les enfants, ce n'est pas pareil. Les enfants, on ne leur fait pas confiance. Alors la vérité ou le mensonge n'a aucune importance. Je ne ferai plus jamais confiance aux grandes personnes.
Corentin, il vaut souvent mieux protéger avec un mensonge que blesser avec la vérité. Le mensonge rend la réalité plus belle. Les cachotteries offrent un peu de fantaisie à la vie. Les secrets donnent du suspense à l'existence. Ils donnent envie d'aller au bout pour connaître la fin. Tu n'as aucun secret, Corentin ?
Avoir des secrets, c'est ne rien dire. Mais mentir, c'est trahir.
Tout le monde ment, Corentin. Dès le matin, quand on te demande « ça va ?» et que « ça ne va pas », mais que tu réponds quand même « ça va », tu mens. Quand tu es de mauvaise humeur et que tu souris, tu mens aux autres.
Ce n'est pas la même chose.
Si, nous mentons tous. Au minimum, nous nous mentons tous à nous-mêmes. Mais c'est une autre histoire. Corentin, tu devrais être flatté que ta maman soit Morgane, que ce soit ta maman qui ait inventé toutes ces histoires. Tu n'es pas très malin. Tu aurais dû t'en douter. Toute ton imagination débordante, Corentin, tu l'as bien héritée de quelqu'un.
Pourquoi n'écrit-elle plus ? Pourquoi a-t-elle arrêté d'écrire juste en 2003 ? Pourquoi elle n'est plus aussi joyeuse que dans ses histoires ? Raconte-moi, puisque tu es celui qui la connaît le mieux.
Elle est seule, tu sais.
Oui, ça je le sais. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ?
Je t'en ai déjà dit beaucoup trop.
Alors tant pis. Raconte-moi les ailes de porcelaine. Tu l'avais promis pour mon anniversaire.
Non, pas maintenant, Corentin.
Et pourquoi pas maintenant? Parce que tu m'en veux? Tu m'en veux parce que je m'endors chaque soir avant la fin de tes histoires?
Non, Corentin, ça n'a rien à voir.
Alors pourquoi? Explique-toi au moins.
Parce que ce n'est plus possible. Maintenant, c'est trop tard.
Mais tu me l'avais promis!
Oui, mais à ce moment-là, tu ne savais pas qui était Morgane.
Et alors, ça change quoi ?
Tout.
Tout quoi ?
Silence.
Une dernière fois, tu ne veux vraiment pas me raconter cette histoire, Merlin ?
Silence.
Alors tant pis pour toi,
conclut Corentin. Aussitôt, Merlin devina ce que Corentin voulait faire. Merlin paniqua. Il se défendit comme il put. Non, Corentin, pas ça. « Tu n'as pas le droit de me lire sans ma permission. C'est un secret. Ça ne te regarde pas. Corentin, je t'en supplie, arrête !»«
Désolé, Merlin. J'ai tout de même le droit de lire le livre posé sur ma table de nuit. »«
Je t'en prie, sois patient. »«
Il faut que je sache, Merlin. »«
Non, Corentin. Attends encore un peu. » Mais il était trop tard.
Corentin ouvrit Merlin par la fin et lut sans respirer la dernière histoire qu'avait écrite maman.
Corentin
ne parvenait pas à l'appeler Morgane.
Mai 2003. Les ailes de porcelaine. Il était une fois un bébé, une petite fille. Nous l'appellerons Solterre. Pourquoi pas Solterre? Comme elle était née en été, ses parents oubliaient parfois de fermer la fenêtre de sa chambre. Trois petites fées passant par là, pas plus grosses que des mouches, la visitèrent à la naissance, munies de leurs baguettes magiques. La première fée rendit Solterre joyeuse. La seconde lui donna le pouvoir d'inventer des histoires. La troisième lui assura qu'elle rencontrerait l'amour. Hélas, la fenêtre resta ouverte après le passage des trois fées, et une sorcière, pas plus grosse qu'un moustique, passa et entra.
« Alors, comme cela, on t'a promis le ciel, ma petite. Mais le ciel n'est pas éternel. On finit toujours par redescendre. Brutalement, je te le promets. Rappelle-toi toujours de cela, petite. Les ailes des anges sont en porcelaine. »
Depuis ce jour, était-ce un cauchemar ? Solterre grandit avec la peur des ailes de porcelaine, bien plus qu'un vertige. Solterre ne jouait jamais à chat perché. Solterre évitait les balançoires. Solterre se méfiait des manèges. Solterre avait horreur de la montagne et surtout, Solterre détestait au plus haut point les avions. Un jour qu'elle était déjà grande, Solterre rencontra un garçon. Nous l'appellerons Icare. Pourquoi pas Icare? Elle l'aima d'abord passionnément, comme la fée le lui avait dit. Elle l'aimait car il était passionné. Hélas, Icare avait des voyages la passion. Pire encore, il pensait que la meilleure façon de voyager était l'avion, qui permet presque de se déplacer à la vitesse de la pensée. Icare entreprit alors de guérir Solterre de sa peur. Il lui parla du petit prince, elle lui parla de Saint-Exupéry. Ils se marièrent. Icare eut alors l'idée d'un baptême de l'air pour voyage de noces, pour guérir Solterre. Solterre ne lui avait jamais parlé de la sorcière, des ailes de porcelaine. Icare ressemblait tellement à un ange. Solterre résista encore à cette idée de baptême de l'air. Icare insista. Icare finit même par parler de preuves d'amour. Alors Solterre finit par céder. Elle finit par dire oui, alors que tout son corps lui criait non. Elle dit oui à ce baptême de l'air.
Oh, pas longtemps, lui assura Icare.
Un tout petit vol, dans un tout petit avion loué à un ami. Un tout petit vol juste au-dessus de chez eux, un tout petit tour de rien du tout. Le 20 mai 2003.
Corentin tourna la page suivante de l'agenda, la dernière page. Elle était arrachée.
« Merlin !»
hurla Corentin en refermant le livre.
« Merlin, je t'en prie, que s'est-il passé ce 20 mai 2003 ?»
Merlin aurait pu sourire et répondre « Chacun son tour. Il aurait pu se moquer et se venger. Rêve la suite, puisque tu as tant d'imagination. » Merlin répondit simplement, « Je n'en ai pas le droit, Corentin. »
« Je t'en prie !»
En arrachant cette page, on m'a également arraché la langue.
« Je t'en prie, c'est l'histoire de maman, ou de Morgane, ou de Solterre, je ne sais plus, dis-moi !»
« Je suis désolé, Corentin. Ce n'est pas à moi de te parler. Je n'en ai pas l'autorisation. » Alors, brusquement, un film repassa devant les yeux de Corentin. Le gros plan d'un article de journal caché dans un coffre, le récit d'un fait divers daté du 20 mai 2003. Merlin le devina. Ce ne fut pas difficile. Corentin blanchit comme si son cœur menaçait brusquement de se mettre en grève. « Corentin !» cria alors Merlin. « Elle n'était pas dans l'avion. Icare s'envola seul. Au dernier moment, Solterre dut renoncer au baptême de l'air.
la veille, elle avait appris qu'elle attendait un enfant.